À présent,
Frédéric Borms.
À présent, ce soir, avec Céline Lefebvre et Didier Sicard, autour du surgissement de la santé publique. À présent, tout le monde sent que le présent, notre présent, est fait de changements et même de bouleversements. Mais qu'est-ce qui change vraiment? Et ces changements tombent-ils vraiment du ciel? Étaient-ils précédés par rien? N'y a-t-il aucun moyen de les mettre en perspective? C'est le thème général de cette série à présent. Et ce soir, nous allons parler du surgissement de la santé publique à l'occasion ou sous la pression de la pandémie. La pandémie chamboule tout, mais qu'est-ce qui change vraiment avec la pandémie? Et sur le fond, de quels enjeux surgit-elle? La pandémie, la santé publique a été précédée par des réflexions sur le soin. Nous allons en parler aujourd'hui. Le soin mis à l'épreuve de la santé publique avec Didier Sicard, médecin, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, et Céline Lefebvre, maîtresse de conférence à l'Université de Paris, qui co-dirige notamment l'Institut La Personne en médecine. À présent, le surgissement de la santé publique. Je voudrais commencer avec vous, Didier Sicard, en vous remerciant d'être là, ainsi que Céline Lefebvre. Je suis très heureux de cette conversation sur ce sujet. Au fond, tout le monde sent qu'il est majeur aujourd'hui, qu'il se passe quelque chose du côté de la santé. Mais si on est un peu plus précis, Didier Sicard, vous-même, par exemple, on vous associait dans le débat public avec des questions, disons, d'éthique médicale au sens très large. Vous avez présidé le Comité national d'éthique avec notamment des avis majeurs sur la fin de vie, sur l'euthanasie. On vous a confié une mission sur la fin de vie, le président de la République de l'époque, François Hollande, une mission très, très importante sur les directives anticipées. On en reparlera d'ailleurs aussi à l'occasion de la pandémie. Mais la pandémie a fait surgir une autre facette de Didier Sicard, si j'ose dire, une facette un peu moins connue, en tout cas de moi, et liée à vos spécialités médicales, que peut-être vous pouvez nous rappeler, Didier Sicard, cette facette justement de la santé publique. Et comment est-ce que vous la définiriez? Est-ce qu'elle est importante dans votre pratique de médecin depuis le début? Et au fond, on va y en parler, c'est l'objet de cette émission, mais en quoi l'événement l'a-t-elle réveillée, relancée pour vous?
Bonsoir, Frédéric Borms. Elle m'a tellement intéressé que, au fond, si j'avais eu 40 ans de moins, j'aurais voulu avoir une chaire de santé publique.
Ah, une chaire de santé publique.
Et j'aurais voulu créer un institut de santé publique multidisciplinaire qui rassemble aussi bien les sciences humaines, un peu comme Céline Lefebvre, mais avec une vision santé publique, et non pas le soin individuel. Donc, au fond, un institut peut-être concurrent.
On va revenir sur la définition, justement.
Alors, une définition, c'est toujours un peu abstrait. Moi, je prendrais une définition à partir du masque.
Ah.
La santé individuelle, c'est les gens mettent le masque pour se protéger. Or, le masque est l'illustration même, compte tenu d'un risque quand même qui est faible, d'un sentiment de lucidité sur la santé publique, c'est-à-dire protéger l'autre. Mmh. La santé publique, c'est la conscience d'appartenir à un ensemble de citoyens et d'être conscient qu'il y a des problèmes atmosphériques, de pollution, il y a des problèmes de vaccination qui nous concernent tous. Et avant de se préoccuper de sa propre santé, ce qui est absolument fondamental quand on est malade, mais la santé publique, ça, c'est au fond sortir de soi-même, mmh. abandonner un peu, une petite part de soi-même, pour le bien commun. Alors tout ça, c'est des mots abstraits, mais ouais, pour moi, c'est fondamental.
C'est fondamental, mais tout de suite, Didier Sicard, et c'est à votre honneur, et on est tout de suite au cœur du sujet, vous en donnez une définition que j'allais dire éthique. La santé publique, c'est la santé des autres, et pas seulement de nous-mêmes. Mais moi qui avais l'expression en toile de fond, mais sans précision, j'ai été voir dans le dictionnaire, quand j'ai lu un de vos articles, qui s'appelait « Refondons la santé publique », et dans le dictionnaire, on l'oppose justement aux soins, et on dit « la santé publique, c'est finalement la part de la santé qui dépend du comportement des gens dans les uns à l'égard des autres, effectivement, mais par opposition au traitement ou au soin lui-même, qui est quand on est malade, effectivement. Donc la santé publique, c'est quand même une part énorme de notre santé, dépend des comportements des humains, des individus, dans l'espace public. Ça relève, vous relevez beaucoup d'exemples d'ailleurs, le tabac, l'avortement, même la prévention des maux par des comportements humains, c'est la santé publique.
Mais absolument, et je peux vous donner un exemple très concret. L'hépatite C est actuellement accessible à un traitement très coûteux, l'ordre de 30-40 000 euros, et on peut guérir l'hépatite C. on pourrait dire, bon, bah, c'est merveilleux, le problème est réglé. Alors, en termes de santé publique, la question est réglée. Or, justement.
Justement pas.
Ben justement pas, parce que quand on est guéri, on peut se réinfecter. Et on est extrêmement, au fond, on s'intéresse au traitement de guérison, mais on ne s'intéresse pas à la réinfection. Mmh. Or, quand un sujet est malheureusement sous une situation d'acquisition de drogue, il va se réinfecter. Et donc, de nouveau, 40 000 euros. Donc, on est dans une situation où le sentiment qu'on appartient à un espace qui peut être source de soucis, de complications, être que l'État se donne les moyens à ce moment-là d'avoir une pièce de pédagogie, de penser que protéger les citoyens des risques pour lesquels ils n'ont pas conscience, ils sont préoccupés de leur propre infection et non pas, au fond, du risque qu'ils peuvent de nouveau courir. Et dans ce domaine, en France, on n'est pas bon parce que on a fini par ériger une sorte de principe de précaution qui est abstrait, qui ne sert à rien, oui. Et de considérer que la prévention, elle embête tout le monde. C'est-à-dire que on parle du masque, ça, on le voit très bien, mais au fond, intervenir sur l'alcoolisme, sur le tabac, sur les conduites sexuelles, l'État se dit maintenant, on est débarrassé. Au fond, des questions contraignantes en termes de santé publique. Au profit de la liberté. Liberté d'être malade, c'est très très bien, mais la pollution, c'est un domaine majeur. À Paris, c'est un domaine absolument majeur pour les personnes un petit peu... Donc, la santé publique, c'est d'être extrêmement attentif et considérer qu'il y a des domaines où, éventuellement, selon des conseils, mais des attitudes collectives sont plus importante que simplement la suite individuelle.
Mais alors, justement, Didier Sicard, vous montrez bien les ambivalences des citoyens vis-à-vis de la santé publique, avec sa part de prévention, mais aussi de contraintes. Vous évoquez même la liberté d'être malade, mais vous, Céline Lefebvre, donc, qui travaillez sur le soin depuis longtemps, depuis la philosophie aussi, mais en contact avec la médecine et l'hôpital de façon très concrète, est-ce qu'on pourrait pas expliquer la prévention à l'égard de la prévention, j'allais dire, c'est-à-dire le fait que la prévention passe au second plan, cette prévention collective d'avant la maladie, par le fait aussi très profond que notre expérience première de la médecine, notre expérience première de la maladie, c'est quand même quand on est malade, j'allais dire, Didier Sicard, c'est-à-dire quand on a affaire aux soins. Est-ce que pour vous, il n'y a pas une manière d'expliquer la primauté du soin effectif quand on est malade sur la prévention par d'abord quand même cette expérience concrète de la maladie et du coup qui rendrait aussi difficile la prévention, en tout cas tant qu'on n'est pas malade.
Bonsoir Frédéric Worms.
Bonsoir à vous.
Oui, je crois que la période nous montre un paradoxe que vous évoquez et que je vais reprendre d'une manière un petit peu différente, c'est qu'on a aujourd'hui cette irruption de cette pandémie, une médiatisation, une obsession pour la Covid, et du coup la mise en avant de toutes les problématiques de santé publique, notamment celle des comportements, mais pas seulement à mon avis, celle aussi qu'il faut pas oublier, celle des inégalités sociales.
Dans tous les enjeux publics de
exactement,
la santé,
dans les comportements, dans l'accès aux soins, dans l'accès à la santé, etc. Donc on a cette mise en avant, cette médiatisation, et en même temps, il me semble demeurer une invisibilisation, un manque de réalisation de la part de beaucoup de bien portants de ce qu'est la maladie, de ce qu'est concrètement cette maladie-là. Soit qu'on l'attrape et qu'on ait été avant en bonne santé et les risques qu'elle fait encourir, y compris, on le sait maintenant, pour des gens jeunes et de manière parfois durable et de manière très invalidante. Et aussi l'expérience de la maladie de ceux qui sont malades chroniques, par exemple, ou qui ont déjà une maladie grave comme un cancer et qui risquent de l'attraper. Et il me semble qu'aujourd'hui, les messages de santé publique, notamment le rôle du masque et le rôle préventif du masque, commencent à faire émerger des débats sur le fait que ce serait exagéré, irrationnel, antidémocratique d'imposer de manière obligatoire le port du masque. Et il me semble que ces débats affleurent parce qu'on oublie la réalité de la nécessité de prévenir de la contamination beaucoup de personnes qui sont déjà malades.
Oui, mais alors,
et la réalité de la maladie, en fait. Et donc, il me semble que dans la santé publique, il y a une pédagogie sociale de la maladie, un apprentissage public, un partage de l'expérience de la maladie à travers des discours, des représentations, des créations artistiques, etc., qui manquent et qui feraient comprendre combien la prévention est absolument nécessaire.
Oui, mais alors justement, Céline Lefebvre, vous venez de souligner en creux, j'allais dire, pourquoi au fond, pour nous, et c'est quand même aussi le point de départ de votre travail sur le soin, pourquoi c'est l'expérience vécue de la maladie qui est première, et du coup, ça explique aussi la difficulté de la santé publique, puisque justement, c'est la santé, c'est des considérations sur la santé qui interviennent avant ou aussi après, mais en tout cas indépendamment du soin effectif, de l'expérience de la maladie, où par exemple pour cette maladie, bah oui, on peut voir des images de patients même hyper technicisés dans les services de réanimation, mais où par définition on demande à des gens qui ne l'ont pas eu de la prévenir. Et comment est-ce que pour vous, malgré tout, là vous le critiquez, vous envisagez des remèdes, enfin vous en tirez des conséquences, mais pour vous c'est quand même existentiellement, j'allais dire, c'est l'expérience de la maladie qui vient en premier dans notre rapport à la médecine, ou bien est-ce que c'est seulement un biais contingent,
oui,
mais ça me semble plus important que ça.
Oui, vous parlez à quelqu'un qui a travaillé avec vous sur Georges Canguilhem. Donc,
c'est en effet
parce qu'il y a des malades qu'il y a des médecins. Et la médecine naît de... Enfin, cette science du normal...
On l'oublie parfois,
voilà, cette science du normal naît de l'expérience de la normale. Le logos vient du pathos. Et voilà, c'est
dans pathologie, oui. Le pathos et la souffrance vient avant la science.
La médecine, y compris l'épidémiologie, y compris la santé publique, tous les savoirs médicaux naissent de cette expérience vécue extrêmement diversement, selon les cultures, selon les individus, de la douleur, de l'échec, du raté, de la souffrance. Donc, et effectivement, il me semble que, par exemple, on a pu croire que le confinement qu'on a vécu au printemps, l'expérience du confinement, l'expérience de la limitation de la liberté, de l'enfermement, allait pouvoir introduire les bien portants à ce que c'est que l'expérience de la maladie. Car en effet, dans l'expérience vécue de la maladie, il y a une forme de confinement.
Quand on est entre l'hospitalisation finalement et la prévention, on pourrait imaginer au moins ce lien,
voilà,
la souffrance concrète de l'enfermement.
On aurait pu imaginer que l'expérience du confinement soit une sorte de propédeutique, d'introduction, de sensibilisation à la limitation de la vie, des pouvoirs du corps et de l'esprit qui est imposée par la maladie. Et en fait, on se rend compte que pour beaucoup de gens, il n'en a rien été parce que ce confinement était imposé de l'extérieur par des mesures sanitaires qui renvoyaient une maladie encore quand même lointaine ou qui arrivait aux autres et qu'on voyait seulement à la télévision. Alors que le confinement qui est imposé par la douleur ou par l'angoisse ou par l'obsession, par exemple, de l'attente d'un diagnostic ou par simplement la limitation des pouvoirs du corps, ce confinement-là, il est intimement ressenti, exactement, et c'est difficile de communiquer, de faire imaginer, de faire sentir cette expérience.
Mais alors justement, pour tous les deux, mais Didier Sicard, Canguilhem explique très bien que les humains ont inventé des médiations dans leur rapport à la maladie. Au-delà de l'expérience directe, il y a la technique médicale, il y a aussi la prévention, effectivement, mais qui là risque de se couper, finalement comme tout moyen risque de se couper un peu de sa fin, ne serait-ce de sa fin FIN, de son but, et c'est un peu comme disait Céline Lefebvre, les moyens de prévention, on n'arrive pas à les raccrocher à l'expérience de la maladie, et pour cause, puisqu'ils la préviennent. Est-ce que c'est pas là un obstacle majeur? Est-ce que c'est par là, Didier Sicard, que vous-même, qui êtes donc médecin avec une facette de médecine interne et de médecine infectieuse, donc de santé publique, dans votre pratique médicale, dans votre spécialité, est-ce que c'est comme ça que vous expliqueriez vous-même cet obstacle, j'allais dire épistémologique, cet obstacle existentiel à la prévention?
L'obstacle, il est triple. Il est d'abord le fait que la prévention repose désormais sur la technologie, c'est-à-dire les dépistages. Ensuite, la prévention, elle apparaît comme une contrainte. Et Céline parlait du mot pédagogique, qui est le mot le plus important, c'est-à-dire comment arriver à ce que... Je prends deux exemples. La stérilité des jeunes femmes est croissante. Elle est croissante parce que il n'y a aucune éducation, mais une éducation respectueuse, pas une éducation contrainte, sur la prévention, sur les maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes femmes, qu'on considère comme, ou les jeunes filles même plutôt. Et au fond, le paradoxe, c'est que la prévention du sida par un médicament a abouti à ce que le préservatif soit de moins en moins utilisé, et par conséquent, les jeunes filles et les jeunes femmes payent un prix très lourd à des infections des chlamydia, des gonocoques qu'on ne voyait plus depuis les années 50. L'autre point.
Donc le point de comparaison que vous faites avec donc cette montée d'un risque de santé publique finalement
et donc, prévention qui devient la stérilité qui en est la conséquence. Ouais. On va la traiter par la fécondation in vitro technologique et non pas simplement par une prévention qui fait que la stérilité plutôt que la fertilité continue. Autre exemple, moi je trouve que la France dans ce domaine est catastrophique sur le plan de la prévention des conduites addictives parce que on est le pays le plus addict. Et le pays le plus répressif. Et là, avec la contravention 150 ou 200 euros, si on a de l'argent, on peut se payer 200 euros, mais c'est pas...
On parlait de la contravention pour la possession de
cannabis. Le problème, c'est d'arriver à être suffisamment attentif aux personnes qui sont en situation d'addiction pour les protéger, éventuellement, des overdoses. C'est-à-dire arriver à avoir une vision santé publique des comportements déviants, non pas en termes d'emprisonnement, de répression, mais de respect. Mais comment on peut vous aider à vous sortir d'alcool, à vous sortir du tabac ?
Mais alors justement, Didier Sicard, vous avez écrit, entre autres choses, pendant la pandémie, et évidemment, vous êtes intervenu dans le débat public sur la santé, justement, dans toute votre carrière, mais vous aviez écrit un article qui, Refondons la santé publique, qui avait aussi comme effet de sidération pour le lecteur de lier tous ces problèmes auxquels on ne pense pas forcément sur la santé publique, les maladies sexuelles, les addictions, et évidemment la pandémie elle-même. Justement, pour prolonger le débat qu'on avait avec Céline Lefebvre, est-ce que la pédagogie ne rencontre pas ici un obstacle très profond dans cet écart entre l'expérience directe du soin et la prévention, qui est un détour, qui risque d'être abstrait par la santé publique. Par exemple, je pense ici à ces photos, aussi horribles soient-elles, sur les paquets de cigarettes, on a l'impression qu'elles n'ont aucun effet.
Elles n'en ont aucun.
Donc il y a cet écart très profond qu'évoquait Céline Lefebvre entre, visiblement, l'expérience vécue de la maladie. Une fois qu'on a été malade, je pense qu'on est déjà plus sensibilisé, c'est le cas de le dire, à la prévention. Et comment, justement, on peut faire de la prévention envers ceux qui n'ont pas encore eu cette expérience.
Mais justement, il faudrait qu'il y ait une discipline santé publique qui, au fond, n'existe quasiment pas, parce qu'elle est prise toujours par résignation, parce qu'on ne peut pas faire autre chose.
Dans les études de médecine, vous voulez dire, oui.
Et que les médecins scolaires ont disparu. On pourrait imaginer que dans une école, des enfants qui sont un peu en perdition puissent avoir accès à l'université. Il n'y a pas de médecine universitaire. La protection maternelle infantile est beaucoup moins présente dans l'espace public qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Au fond, il y a un renoncement et en France, on a toujours tendance à prendre les questions par la punition. Alors, on va vous empêcher de boire des boissons sucrées. Le problème, c'est pas d'empêcher de boire des boissons sucrées, mais de leur dire, écoutez,
si vous en buvez,
voilà ce qui va vous arriver. Donc, le problème, c'est d'être suffisamment... Il ne faut pas non plus transformer la vie en une médicalisation. La santé publique, c'est l'anti-médicalisation. C'est pas faites des scanners, faites des échographies. C'est réfléchissez un peu plus loin que le bout de votre nez et essayez de comprendre que il y a un certain nombre de comportements collectifs qui vous exposent à des risques personnels.
Je trouve l'expression très forte de Didier Sicard, dire que la santé publique, c'est l'anti-médicalisation. Beaucoup aujourd'hui pensent au contraire que c'est une des facettes de la médicalisation. Il y en a une autre qui serait l'hypertechnicisation. Mais l'idée de nous faire penser tout le temps à la maladie, certains, au lieu de le prendre comme une pédagogie préventrice, y compris préventrice de la médicalisation, le voient comme une intrusion, Didier Sicard.
Justement, mais je vous dis que quand on est sous une pollution, à cause des encombrements, avec son scooter ou avec sa bicyclette, même avec son masque, et manifestement, on n'a aucune intervention réelle de l'État sur le risque collectif que fait courir la pollution dans les grandes villes. Là, il y a quelque chose qui est quand même un peu étrange. C'est-à-dire, on dit que ce problème est insoluble, il supposerait des... Donc, la santé publique, c'est simplement se sentir humain parmi les autres et de ne pas avoir le sentiment que sa propre santé dépend des capacités d'avoir un bon médecin, d'avoir... Si on est malade, effectivement, l'angoisse est de dire qu'il faut avoir le meilleur cancérologue, le meilleur cardiologue, et... Mais je pense que la santé individuelle et la santé publique, le paradoxe, c'est qu'elles n'ont rien à voir. C'est que la santé individuelle, elle repose désormais sur l'adéquation de sa souffrance à une réponse qui devient de plus en plus technique et de plus en plus difficile, de plus en plus coûteuse. La santé publique, c'est comment ne pas tomber malade. Évidemment, ça ne va pas empêcher d'avoir un cancer, d'avoir une maladie génétique, d'avoir une maladie... C'est comment faire intelligemment.
Face à des risques qu'on connaît finalement. C'est-à-dire la science nous donne quand même les moyens de prévenir, déjà par le savoir.
Sur le plan alimentaire, de ne pas boire ses 3 sodas à l'après-midi en sortant de l'école, de ne pas fumer immédiatement. Ouais. On est frappé de voir que, par exemple, à Los Angeles, dans une école, il est impossible pour les élèves de fumer à l'école. Et à ce moment-là, on leur dira non, c'est absolument interdit. Or là, il y a un peu de laxisme. C'est-à-dire que le problème, c'est que la pédagogie, c'est dès l'école avoir un minimum de comportement structuré.
Mais Didier Sicard, justement, le montre, Céline Lefebvre, je voulais votre réaction. Au fond, implicitement, dans ce que vient de dire Didier Sicard, il y a un passage d'un extrême à un autre dans la santé publique. La pandémie, tout à coup, va la mettre au centre. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est un risque? On va y revenir, parce que devant la pandémie, on n'a plus de choix. Mais en temps normal, j'allais dire, Céline Lefebvre, vous parlez justement de la normalité. En temps normal, justement, la santé publique semble justement ne pas avoir de prise sur nos subjectivités. Est-ce que pour vous, comment est-ce que cette expérience de la maladie, ce travail sur le soin peut rendre concrète, y compris la prévention et la santé publique?
Mais
vous pouvez réagir aussi à ce qu'a dit Didier Sicard.
Je réagirai sur deux points. Il me semble que la question que vous avez agitée, c'est celle de la manière dont on peut avoir des messages de prévention qui soient efficaces. Il me semble qu'une des manières de faire, c'est de connaître, de comprendre et de s'inspirer des milieux, des contextes, des situations, et en particulier, et d'adapter les messages à des contextes qui sont tous différents. Vous avez cité le milieu scolaire, le milieu du travail. Il y a des milieux qui sont plus défavorisés que d'autres, des milieux qui exigent qu'on parle plusieurs langues. La déclinaison des messages en fonction des contextes, des situations, des cultures et des inégalités sociales me semble devoir absolument être mise en œuvre. Et vous l'avez dit, de cesser avec un modèle d'éducation sanitaire verticale, autoritaire, étatisée, pour aller vers ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire le fait que c'est en connaissant les milieux et les acteurs et en s'appuyant sur leurs problèmes qu'on adapterait les messages de santé publique.
Mais quand même, Céline Lefebvre, tout ça, est-ce que ça suffirait? Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de donner aux citoyens, et qui sont aussi des patients et des humains mortels, fragiles, le sentiment que c'est une forme du soin, que ça peut faire partie du soin, de prévenir, que c'est déjà du soin. Mais c'est du soin parce que finalement, il y aurait une expérience déjà de vécu, une expérience de la souffrance à laquelle la prévention elle-même répondrait.
Oui, oui. Enfin, pour moi, c'est pour moi qui travaille beaucoup au contact de personnes ayant des maladies chroniques, évidemment, par exemple, pour elles, prévenir, se masquer, se laver les mains, respecter les gestes barrières, puisqu'on parle de la Covid, c'est déjà du soin. Et c'est déjà, pour elles, c'est un instrument dans toute une panoplie d'instruments qu'elles mettent en œuvre quotidiennement pour prévenir une complication, la nécessité d'une consultation en urgence, un aléa thérapeutique, etc. Donc, il n'y a pas de discontinuité.
Ils savent intimement contre quoi ils se protègent.
Voilà, il n'y a pas de discontinuité entre prévention et soin.
Mais il y a un exemple caractéristique. Quand j'étais chef du service à l'hôpital Cochin, vraiment, j'obligeais les étudiants, les internes, à se vacciner contre la grippe. Et ils étaient très hostiles. Ils étaient très hostiles. Ils considéraient que eux-mêmes, non, vous avez le droit de pas être. Alors que médecins, santé publique, ça veut dire que je me vaccine non pas pour me protéger, mais je vaccine les malades que je vais traiter.
Bien sûr. Et au fond, le médecin protège les autres aussi par sa propre santé, par son propre corps. Alors, la pandémie met tout cela sous un éclairage nouveau. Est-ce que cette émergence de la santé publique est quand même une chance pour le soin ou un risque pour le soin? Paradoxalement, comme on va le voir dans un instant, mais chacun de nos invités a choisi un morceau de musique pour jalonner cette conversation. Et Céline Lefebvre a choisi un titre symbolique, Under Pressure par David Bowie.
Streets. Boom, ba, ba, ba. France Culture.
À présent.
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, le surgissement de la santé publique avec Céline Lefebvre, maîtresse de conférences de philosophie à l'Université de Paris, et Didier Sicard, qui a été médecin de maladies infectieuses et de maladies internes et ancien président également du Comité consultatif national d'éthique. Merci à vous deux d'être là. Nous venons d'entendre Under Pressure de David Bowie que Céline Lefebvre a choisi. Nous nous demandions, avant de l'entendre, si la pandémie qui fait surgir la santé et le soin, en apparence, en tout cas au cœur de l'agenda public, justement, est-elle finalement une révélatrice? Elle n'est pas un événement qui tombe de nulle part, elle révèle des lacunes dans la santé publique, elle intervient aussi au moment où la thématique du soin montait en puissance dans nos sociétés. La pandémie est-elle une chance pour la santé, pour la justice aussi dans le soin, ou bien un risque? On voit qu'elle fait émerger des questions, elle en masque d'autres, c'est le cas de le dire. Par exemple, Céline Lefebvre, du côté du soin, la pandémie peut avoir fait reculer la proximité du soin avec les malades, l'absence de contact. Également, la présence de la mort, il y avait ce travail sur la fin de vie auquel Didier Sicard a participé pendant 30 ans. Tout à coup, on a l'impression que sous la pression de la maladie, tout ce travail s'est fragilisé. On n'avait plus le droit d'aller auprès des proches pour leur souffrance ou leur deuil, ou leur décès, puis le deuil. Et puis, Céline Lefebvre, vous aviez aussi montré dans un article publié par AOC que finalement, la pandémie a écrasé les autres maladies. Et c'est peut-être une difficulté pour le soin, la santé publique. Mais paradoxalement, il ne faudrait pas que ça devienne un risque vraiment pour le soin. Je pense que vous pensez que la pandémie peut au moins faire revenir la santé au cœur de l'agenda public. Mais pour vous, quels sont les avantages et les risques, Céline Lefebvre, du point de vue du soin?
Alors le risque, cela a été, on l'a vu, on l'a vécu, et c'est devenu une réalité, c'est qu'il y a eu une saturation dans certaines de nos régions en France du système hospitalier, et pas seulement des services de réanimation. Et du coup, il y a eu cette saturation a fait que certaines populations n'ont pas pu accéder à l'hôpital. Il y en a deux, c'est les personnes âgées qui étaient résidentes en EHPAD, dont on sait qu'elles n'ont pas pu accéder non pas seulement aux services de réanimation, où là d'ailleurs peut-être que ça aurait été délétère pour bon nombre d'entre elles, parce que ça aurait été la mise en œuvre de soins lourds, invasifs, pas forcément bénéfique, mais plutôt nocif, long et donc...
Ça aurait été un arbitrage, justement, de soins normaux, j'allais dire, voilà. De triage, comme vous le dites dans vos travaux.
Mais le problème, c'est qu'elles n'y ont pas accédé, elles n'ont pas accédé aussi à des services d'hospitalisation normale ou de soins palliatifs qui auraient pu leur permettre, justement, d'avoir une fin de vie la moins inconfortable possible, la plus accompagnée possible. Donc là, on a une priorisation qui s'est effectuée au détriment de ces personnes. Et je pense que là, maintenant, le moment à présent où nous sommes, c'est le moment où il faut tout faire pour que cette situation ne se renouvelle pas. Et la deuxième catégorie de population pour lequel le risque s'est concrétisé en réalité, ce sont les malades qui avaient des cancers ou qui devaient subir des interventions qui ont dû être la plupart du temps pas annulés mais reportés, mais aussi d'autres malades chroniques qui avaient des consultations, des examens, tout un tas d'accès à l'hôpital qui était absolument indispensable pour leur santé. Je pense aux personnes aussi, aux insuffisants rénaux par exemple. Et là, il y a eu une priorisation des malades de la Covid au détriment des malades qui n'avaient pas la Covid.
Là, c'est même pas un risque, c'est déjà une réalité.
Donc, exactement. Et donc, il ne s'agit pas d'un triage au sens d'une action réfléchie, explicitée, de priorisation, d'attente, etc. Mais il s'agit d'une situation d'engorgement, de saturation, mais qui, au final, confine à un triage indirect. Et pour donner l'envers de la médaille, vous me posiez la question de la chance.
Oui,
c'est
notre question aussi. Est-ce que ce surgissement-là peut aussi être une chance?
Voilà. Eh bien, le gain, c'est d'éclairer tout un tas de pratiques, de logiques, de mécanismes de tri qui sont à l'œuvre déjà à l'hôpital, parce que dans ces situations de ressources qui sont par nature limitées, les services d'urgence en sont obligés de sélectionner, de prioriser dans l'accès à l'hôpital les malades. Et
Et en général, on ne le sait pas, on ne le voit pas.
Voilà, ça fait partie d'ailleurs du travail médical. C'est fondé en partie sur des critères médicaux. Mais plus il y a de la pression, moins il y a de lits, moins il y a de moyens en personnel, plus ces critères médicaux s'articulent à d'autres critères. Et c'est là que, par exemple, les inégalités sociales d'accès aux soins, d'accès à l'hôpital, se font plus aiguës. Donc la chance qu'on a, c'est de pouvoir mettre le projecteur maintenant sur tous ces mécanismes de tri.
Alors, c'est très important, évidemment, puisque quand vous dites la chance qu'on a, c'est qu'il y a un avenir après la crise, justement, où on peut redéplier peut-être plus tranquillement ces enjeux. Didier Sicard, ce que vient de dire Céline Lefebvre, c'est aussi les effets du pic de la crise de santé publique. Est-ce que c'est même encore de la santé publique? C'est tout à coup, c'est la crise elle-même.
Non, moi, je crois pas.
Simplement,
c'est que la santé publique, là, qui était à peu près inexistante, a été capturée par la Covid.
C'est ça,
qui lui a donné une visibilité anormale et au fond, pénalisante. C'est-à-dire, ce qui est très étrange, c'est que, dans les EHPAD, par exemple, la vision santé publique, c'était que les soignants eux-mêmes se protègent de façon telle qu'ils n'ont pas contaminé. C'est pas les familles qui contaminaient, c'était les soignants eux-mêmes qui contaminaient. Et pas de masque, c'est dramatique.
La santé publique. On va revenir sur la question du masque, qui est le symbole justement de la santé publique.
Oui, mais justement, c'est que la santé publique, c'était de penser un petit peu un coup d'avant, quoi, et d'être vigilant. Mais je ne pense pas que ce soit de la santé publique que de confisquer à l'occasion d'une épidémie tous les moyens. Là, il y a quelque chose de tragique et presque d'anti-santé publique, parce que l'ensemble des citoyens n'aient plus accès à des soins, avec cet effet un peu paradoxal et étrange, c'est que les neurologues et les cardiologues nous disaient « Nous, on a des lits, et plus personne ne vient. »
Ben oui.
C'est-à-dire que l'hôpital était devenu un lieu d'angoisse. On va attraper la Covid en arrivant à l'hôpital. Donc, au fond, ce n'est pas tellement qu'on ait empêché les gens de venir à l'hôpital, c'est que la peur du citoyen était de venir à l'hôpital. Mais je ne crois pas que la santé publique, dans ce domaine, c'est une vision perverse de la santé publique. C'est pas la santé publique qui est responsable, au fond, du comportement collectif vis-à-vis de la Covid. Elle a montré simplement que une société...
Vous voulez dire que ce n'est pas la santé publique comme institution?
Non,
c'est une représentation de la maladie.
Elle a montré que chacun était concerné de façon identique. Et avec les gens âgés les plus concernés, mais il n'y avait pas, au fond, le sentiment, c'était pas le sentiment d'une maladie individuelle, un cancer, un infarctus, une artérite, un diabète qui vous vient directement. Là, il y avait le sentiment d'appartenir sur le même bateau, et par conséquent, la peur était collective. Mais c'était beaucoup plus du côté de la peur que du côté de l'action.
Mais alors justement, Didier Sicard, comment expliquez-vous que d'un côté, la santé publique soit perçue comme une abstraction, puisqu'on n'est pas malade et on a du mal à prévenir? Justement, vous disiez qu'en France, il y avait eu des grandes institutions de santé publique qui ont été fragilisées depuis 30 ans, les représentations ne suivent pas. Et tout à coup, la crise, le pic, et au lieu de le traduire en termes de représentation, à la fois de la maladie et de la prévention, on est dans la peur, on passe d'un extrême à l'autre, on passe presque de l'indifférence à la panique. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ne sache plus construire l'intermédiaire?
Ben justement, parce qu'on n'a pas eu de culture de santé publique, on n'a pas de culture de la santé des autres, on est préoccupé de sa propre santé, c'est très très bien.
Et encore même, j'ai envie de dire, Didier Sicard, est-ce qu'on est même si préoccupé de sa santé que ça? Quand certains philosophes que Céline Lefebvre citait aussi...
Ça dépend des personnes, mais je pense
quand on dit « j'ai le droit d'être malade », vous avez même vous dit, certains revendiquent la liberté d'être malade. Donc est-ce qu'on est même tant préoccupé de sa propre santé?
Je crois que au 21e siècle, on est beaucoup plus angoissé par sa santé qu'on ne l'était au 20e et au 19e. Au fond, le sentiment que à chaque fois, une maladie peut vous tomber dessus. Et qu'il faut voir, il faut faire un test, il faut faire un scanner. Des gens fatigués disent « je voudrais faire un scanner corps entier, comme ça je voudrais savoir si j'ai... »
Donc il y a une espèce de... Une hypocondrie généralisée, en fait.
Oui, et à chaque... dans les journaux, on dit « vérifiez telle chose, passez votre temps, soyez un expert de votre propre santé, faites le contrôle technique plus souvent qu'avec votre voiture. » Donc il y a une espèce d'angoisse que la santé va dépendre des paramètres que l'on va obtenir pour vérifier que l'on est... Ça n'a rien à voir avec les gens malades. Les gens malades, ils ont besoin... Eux-mêmes sont, au fond, sont angoissés par leur maladie, mais ils sont pas ils sont beaucoup plus conscients.
Ils sont beaucoup plus concrets, finalement.
Plus concrets.
Ils sont dans l'expérience.
Mais c'est l'abstraction. C'est, et avec cette indifférence de comportement, au fond, ils se mettent dans une situation dangereuse, paradoxalement, alors qu'ils craignent pour leur propre santé, mais ils sont indifférents à l'environnement. Et effectivement, on parlait des inégalités. Je suis quand même très effrayé dans un pays comme la France, où quand même l'accès aux soins est quand même gratuit, mais l'accès est quand même très différencié. Quand on est très riche, on a son IRM le lendemain. Quand on est très pauvre, on l'a dans un mois. Et ben pendant un mois, il se passe des choses. Donc il y a quelque chose qui est une inégalité foncière dans la mesure où l'accès à la technologie est très médié par les ressources.
Mais vous pensez quand même, Didier Sicard, et je le poserai la même question à Céline Lefebvre, vous pensez quand même que la pandémie va faire avancer ces représentations, ou bien est-ce que finalement on va être pris justement dans le souci de sa propre santé, dans une prévention personnelle, technique, inégale, selon les moyens, et puis d'un autre côté, l'expérience voilà, de la pathologie. Mais il faut bien qu'on construise cet entre-deux, et la pandémie devrait nous y aider.
Oui, mais là, je suis pessimiste, parce qu'effectivement, cette vision perverse que Céline a très bien soulignée ne me paraît pas de nature à encourager. Et qu'on le voit très bien, c'est comme si la société disait « je veux le vaccin, ouais. comme ça pour moi ». Je serai protégé, je me fiche de tout ce qu'on va pouvoir nous faire comme mesure, mais je veux le vaccin, je veux la science qui me protégera. Je ne veux pas avoir à changer mon comportement.
Mais alors, justement, Céline Lefebvre, vous citiez, Didier Sicard disait, la liberté d'être malade de certains philosophes. J'ai senti que vous aviez envie de rebondir là-dessus. Pour vous, au fond, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, dans cet obstacle qui se dresse devant la prévention, devant la santé publique, il y a l'expérience de la maladie, mais il y a aussi une incapacité à reconnaître notre vulnérabilité, notre dépendance possible à autrui. Nous vivons comme des sujets absolus. Et donc, soit on est malade, soit on l'est pas. Mais en fait, on est de toute façon tout le temps vulnérable, dépendant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet obstacle presque anthropologique, Céline Lefebvre, à la prévention?
Mais je crois qu'il y a un certain discours philosophique, plus ou moins enraciné dans la lecture, par exemple, de Foucault, qui a aussi son intérêt, qui était de dénoncer ce à quoi faisait d'ailleurs allusion professeur Sicard, la dictature de la santé totalitaire, l'obsession hygiéniste, et à travers ça, l'idée que on pouvait responsabiliser et donc avec le risque de culpabiliser et de stigmatiser les gens qui étaient malades. Je résume un peu cette critique
pouvoir, finalement.
Exactement, et donc cette critique de ce que certains appellent le santéisme, l'obsession de la santé. Mais je crois que le moment actuel nous oblige à regarder la réalité de la maladie, le fait que nous n'avons pas de traitement, nous n'avons pas de vaccin. Et ce n'est pas un défaut en ce moment d'être obsédé par cette épidémie, car elle a déjà fait 30 000 morts en France. Et donc, je crois que là, cette attitude critique et ressortir en quelque sorte ce discours est dépassé, il n'est pas adéquat, il n'est pas pertinent dans le moment que nous vivons. Et il oublie ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'un côté les bien portants et de l'autre les malades, mais les choses, les statuts changent, la roue tourne. Et du coup, ceux-là même qui dénoncent ce santéisme ne perçoivent pas qu'ils seront aussi eux-mêmes objets de soins.
Mais justement, vous dites objet de soins, Céline Lefebvre, mais justement, quand certains philosophes opposent d'un côté la liberté et de l'autre côté la passivité de la maladie, le philosophe que vous citiez tout à l'heure, Georges Canguilhem, a montré effectivement que le malade est un sujet, qu'au fond, se reconnaître dans sa fragilité, dans le fait d'appeler le médecin ou de vivre une expérience de la maladie, ça n'est pas tombé dans l'objet, ça n'est pas tombé dans la passivité. Au fond, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt reconnaître la subjectivité humaine sous toutes ses facettes? Celui qui est malade, le nourrisson qui est dépendant, le vieillard qui est redevenu dépendant, les patients d'une manière générale. Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée de la liberté, de la subjectivité de l'humain à défendre pour dire vous opposez liberté et maladie comme s'il y avait l'intrusion et puis un sujet tout puissant au fond. Il y a aussi cette idée de repenser la subjectivité dans la maladie.
Oui,
sur laquelle vous avez beaucoup travaillé.
D'abord, au plan ontologique, il me semble que ce discours oublie tout simplement que, pour citer Canguilhem, il est normal de tomber malade du moment que l'on est vivant, et la maladie fait partie de la vie. Donc voilà ce premier point. Et effectivement, l'autre point, oui, cette opposition, moi j'ai du mal à la concevoir entre liberté et maladie, parce que, enfin, ce que Quand Guillaume nous a appris, c'est que au sein de l'expérience de la maladie, le sujet invente des normes et retisse, refabrique une liberté à partir des contraintes de la maladie. Et précisément, le rôle du soin, c'est l'émancipation, c'est l'empowerment.
Voilà, c'est reconstituer cette subjectivité, voilà, redonner de ses moyens.
C'est à l'aide de la technique qu'est la médecine et à l'aide des relations de soins qui vont bien au-delà de la médecine, hein, qui vont de l'éducation à l'amitié, à l'amour, à tous les supports que nous offrent les relations humaines, y compris la culture. C'est donc à l'aide de ces deux choses, hein, la technique médicale et les relations de soins, aider à l'émancipation, donc à effectivement au gain de liberté, au fait de retrouver la puissance d'agir à l'intérieur de la maladie. Donc cette opposition, elle est pour moi pas très claire.
Est-ce que vous pensez aussi, Didier Sicard, vous qui avez exercé des fonctions de médecin, mais aussi des missions politiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait dire aussi aux citoyens, on veut vous reconnaître comme sujet dans toutes les activités de votre vie, dans le sujet bien portant évidemment, dans la lutte contre les violences politiques, et les abus de pouvoir des médecins aussi. Vous-même, vous êtes professeur de médecine, vous avez dénoncé aussi les abus des médecins très fortement parfois. Mais aussi, on veut vous reconnaître comme sujet dans la maladie. Et on veut même vous donner les moyens de vous saisir de votre santé, Didier Sicard. Il y a un enjeu à la fois anthropologique, qu'est-ce qu'un humain, mais politique aussi.
Tout à fait. Je suis frappé de voir que la France a toujours un côté redresseuse de tort. C'est-à-dire qu'elle est toujours... elle considère que... Il y a des comportements qui sont qu'il faut réprimer.
Des déviants, finalement, toujours.
Déviants, oui, déviants. Alors qu'en fait, les gens n'ont pas déviants, ils ont des désirs, ils font des erreurs, mais ils ont besoin d'être aidés.
Exactement.
Et la santé publique, c'est le respect des personnes. Mais c'est en même temps, quand même, on le dit, on dit des choses, alors que comme si c'était devenu absent et c'était devenu presque obscène. Et je vous rappelle de voir cette... la santé publique a besoin quand même d'hommes et de femmes qui travaillent, qui réfléchissent, sciences humaines. Ils sont quasiment absents de tous les ministères de la santé qui n'ont jamais eu de politique. Un ou deux ministres ont eu un peu ce sentiment, mais c'est très rare. Et il y a toujours le sentiment que les citoyens vont être de mauvais électeurs pour eux, dans la mesure où on va leur dire, écoutez, fumez pas trop, pas trop de boissons sucrées, c'est pas une obsession, mais bon, c'est quand même pas très compliqué quand même d'aboutir à ce qu'une jeunesse soit quand même un peu plus attentive à sa santé que des involtures habituelles.
Alors l'appel du médecin Didier Sicard aux sciences humaines, et on en a une représentante ici avec Céline Lefebvre, votre appel est aussi politique, effectivement, et le fait de se saisir soi-même de la santé. Le morceau de musique que vous avez choisi est très clair à cet égard, Didier Sicard, puisque c'est un appel ou une chanson qui s'intitule tout simplement « Democracy ».
France Culture,
à présent,
Frédéric Borne.
From the silence on the dock of the à présent le surgissement de la santé publique ce soir, question de la santé publique qui fait partie des événements du présent. Est-elle un véritable changement? Peut-elle révéler aussi des risques et des possibilités qui étaient déjà là ce soir avec Céline Lefebvre et Didier Sicard? Didier Sicard, vous avez proposé donc ce morceau de Leonard Cohen, Democracy. C'était pour nous dire, au fond, la santé publique a un enjeu politique. On le voit bien aux États-Unis, mais partout, au fond. Est-ce que pour vous, il y a un lien très profond entre la démocratie et la santé? On parle beaucoup de démocratie sanitaire aujourd'hui.
Je ne sais pas très bien ce que c'est que la démocratie sanitaire. Je sais ce que sont les rapports entre le politique et la santé publique. C'est très ingrat, la santé publique, pour un politique. Parce qu'il n'en tirera aucun bénéfice. Il en tirera un bénéfice à 15, 20 ou 30 ans quand il sera plus là. En revanche, il va tirer des bénéfices quand il y aura des robots chirurgicaux, quand il y aura des hôpitaux super équipés, quand il y aura des IRM faits en 10 minutes... Et alors là, l'équipement, on sera très reconnaissant. Mais l'embarras, c'est que le citoyen ne demande pas à un gouvernement de lui donner des piles santé publique qui seront toujours considérées comme vouloir moins dépenser d'argent pour le soin et de dépenser de l'argent de façon opaque.
Dans des programmes dont le but n'est pas forcément bien expliqué.
Jamais le politique ne aura une politique de santé publique parce que non seulement c'est pas rentable, mais ça le mettra en porte-à-faux par rapport à ses citoyens. Parce que la santé publique, c'est quand même une réflexion individuelle qui n'est pas faite à l'école, qui n'est pas faite à l'université. Il n'y a pas d'enseignement de santé publique dans les facultés de médecine, dérisoire. Tout se limite à... les vaccinations, moi je suis contre, moi je suis pour. Bon, ben ça, à la limite le débat pendant quelques semaines à chaque fois, mais il y a pas une véritable. Alors que je sais si les États-Unis ne sont pas le modèle, mais à Harvard, l'université de santé publique de Harvard, c'est quand même un modèle absolu parce que ils se fondent sur des données épidémiologiques pour dire là il y a une orientation nouvelle à faire et à prendre. Et je crois que moi je suis très indulgent pour le politique. Parce que dans ce domaine, dans les difficultés qu'il a, on lui demande des résultats à court terme. Pour la santé publique, c'est des résultats à long terme.
Mais justement, il y a un décalage structurel, Didier Sicard, puisque quand une ministre de la Santé, au temps d'une précédente pandémie, prévoit des milliers de vaccins, on l'accuse de... Et la pandémie ne vient pas, on l'accuse de faire trop. Aujourd'hui, on n'avait plus de masques quand la pandémie est arrivée, donc on accuse de ne pas avoir prévu. L'action politique, c'est dans l'instant. Et la fonction, la santé publique, c'est la prévention, c'est la prévision. Donc ce décalage structurel, je crois que vous pointez déjà un élément très fort de réponse en disant c'est l'enseignement, la réflexion. Mais au fond, malgré tout, est-ce que ce décalage structurel ne doit pas être assumé par le politique, au moins, pédagogiquement, plutôt que dénié, et comme aux États-Unis justement aujourd'hui, accuser ceux qui préviennent ou ceux qui veulent prévenir de trahir l'économie immédiate, l'urgence vitale plus apparente. Enfin, il y a ce discours du déni aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis.
Oui, mais je crois qu'on... Au fond, le politique pourrait dire, témoigner de son impuissance, mais au moins dire, voilà ce que je devrais faire, voilà ce que vous devriez faire. Vous allez m'en vouloir, si je. Mais au moins, ne pas être avare de mots, parce que sinon, le citoyen dit, mais on ne nous a jamais parlé de santé publique. Et il voit la santé publique comme une espèce d'espace totalement abstrait, avec un haut comité de santé publique, des structures.
Des experts, des sachants.
Des experts, des sachants, mais qui n'ont aucune incidence sur la haute autorité de santé ne s'intéresse pas à la santé publique, elle va s'intéresser aux soins, c'est très bien, mais il y a un moment où la santé publique d'un pays, même sur le plan économique, suppose d'avoir quand même une prévision, une prévention, un accompagnement.
Mais alors justement, Céline Lefebvre, Didier Sicard lance un appel aussi en disant c'est la parole politique, mais aussi il faut de l'enseignement. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur les études de médecine en France, sur la place des humanités, des sciences humaines. Vous avez dirigé un volume qui paraîtra prochainement sur les humanités médicales chez Douin. Vous êtes membre de différents collectifs, comme le collectif aussi des enseignants de sciences humaines en médecine. Vous enseignez la philosophie dans une faculté de médecine. Est-ce que vous pensez, comme Didier Sicard, que ce recours au discours, si j'ose dire, est fondamental et qu'au fond, il faut massivement en parler, l'enseigner, et d'abord aux médecins.
Oui, tout d'abord, pour revenir à la situation aux États-Unis, on voit ce à quoi aboutit cette espèce de division, enfin cette tension que vous citiez entre liberté et santé, entre défense de la reprise de l'activité économique ou protection de la santé publique. Cela peut conduire à diviser la population et à aller jusqu'à la violence. Je lisais dans JAMA un article il y a quelques jours qui relatait
un journal justement
qui relatait aux États-Unis de nombreux actes de violence, de harcèlement, soit sur les réseaux sociaux, soit physiques, de représentants de la santé publique, de médecins de santé publique, d'agents de santé publique.
Qui se font agresser par
les... Qui se font agresser précisément dans ce climat de tension et de d'occultation des enjeux de santé et largement soutenu par Trump.
Et vous pensez donc qu'on peut réagir
Pour revenir à votre question sur la formation médicale, effectivement, une des pistes, c'est d'enseigner ensemble la santé publique et les sciences sociales et l'éthique. Puisque sur beaucoup de problèmes, ces sciences, ces recherches s'éclairent les unes les autres. Par exemple, ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire les questions de pratique, de triage, de priorisation, de sélection des patients à l'hôpital. Pour connaître ces mécanismes-là, il faut qu'il y ait des sociologues à l'hôpital.
Il faut d'abord les assumer. Il ne faut pas les masquer, justement. Et il faut les penser.
Il faut qu'ils comprennent, bien sûr, les pratiques médicales, les déterminants médicaux des décisions. Mais en regard, il faut aussi que le corps médical comprenne que ce qu'il est en train de faire, les décisions qu'il prend, est animé, habité par des valeurs morales et parfois déterminé par des logiques organisationnelles, évidemment par des contraintes budgétaires et matérielles. Donc c'est de travaux collaboratifs entre par exemple des sociologues et des médecins qu'on peut sortir une meilleure connaissance des problématiques de soins ou de santé publique. Par exemple, je pense aussi à des travaux d'un anthropologue américain qui s'appelle Richard Keller, qui a travaillé sur la canicule en France et qui a montré que l'épidémiologie avait manqué la compréhension de beaucoup de morts en France en ratant les aspects sociaux de certaines trajectoires biographiques des populations qui avaient été
l'isolement, la
migration, les classes les plus défavorisées. Donc là aussi, il y a une fécondation nécessaire entre épidémiologie et sciences sociales.
Mais alors justement, Didier Sicard, le à présent de cette émission, à présent tous ces enjeux-là sortent malgré tout. Est-ce qu'il faut presque souhaiter que la pandémie dure un peu, avec au moins ce masque qui est un petit vaccin concret, constant, pénible? Mais est-ce qu'il ne faut pas souhaiter que tout ça revienne sur la table?
Oui, mais il faudrait.
Même si on trouve des vaccins finalement. Mais...
Oui, mais Frédéric Vamps, il faudrait d'abord décovider la santé publique.
Oui, oui, mais on peut profiter de la Covid. Ou du...
Oui,
oui, on peut en profiter,
oui.
En tout cas.
Mais,
la désobsessionnaliser, ça c'est sûr.
Il y a un domaine, moi, qui m'a toujours beaucoup intéressé, ce qu'on appelle les données de santé. Les données de santé sont les données de santé publiques. C'est-à-dire que la santé de chacun devient publique dans la mesure où il y a 500 000 prothèses de hanche, 500 000 angines, 500 000 cancers, etc. Et donc de pouvoir, de façon anonyme, en tirer des conséquences pour que chacun, par l'intermédiaire des données de santé publiques, mais cadenassées, permette de retrouver. Or là, la France est le dernier pays au monde à pouvoir... Il a toujours eu peur. Alors, il y a le Hub Santé, là, actuellement, avec les questions... de
Health Data Hub, oui.
Mais bon, c'est pas...
Il y a ce fantasme de Big Brother.
Big Brother, mais...
Vous faites confiance au numérique, là. Vous faites confiance...
Non,
vous ne faites pas confiance aveugle.
Non, mais c'est vraiment comme information.
Ça peut être un outil.
C'est un outil. Et la santé publique, elle a besoin, quand même, de ne pas être... de compter avec un crayon et le nombre de... Mais d'avoir... Par exemple, moi, je suis frappé, l'assurance maladie, c'est... Chaque jour qu'à Quimper, à Clermont-Ferrand, il y a eu 7 malades qui ont été identifiés, que immédiatement ce soit reporté de façon absolument anonyme, mais on est le seul pays au monde à pouvoir le faire et on ne le fait pas.
On ne le fait pas.
Donc au fond, il y a une espèce de peur de pouvoir transformer les données de santé publiques en données de santé individuelles qui rendraient service.
Et paradoxalement, par peur politique, on évite les enjeux politiques de la santé. Est-ce qu'il y a quand même encore une chance que cette pandémie soit une chance, Céline Lefebvre, pour chacun, pour un tout dernier intervention sur cet enjeu d'ensemble? C'est vrai qu'on voit très bien que y a ce risque, mais il y a aussi cette chance si on s'en saisit.
Peut-être que, puisqu'on parlait de la formation, une chance, c'est qu'on va avoir toute une génération d'étudiants de médecine, de futurs médecins, qui vont avoir été confrontés à quelque chose de totalement inédit, de bouleversant, d'impliquant, enfin le terme n'est pas très français, mais en tout cas de...
clair quand même.
Mais qui est clair, c'est parce qu'ils auront vu des morts massives, ils auront vu des corps fermés dans des sacs qui n'auront pas été vus par les proches, ils auront eu peur de contaminer leurs patients ou de contaminer leurs proches, ils auront vu l'effet d'une pénurie de surblouse ou d'une pénurie de masques dans un hôpital, bref, ils auront vu des choses que la génération présente n'aura pas vues, et peut-être qu'ils se saisiront des enjeux éthiques, sociaux et de santé publique de la médecine d'une manière un peu différente.
Merci infiniment. Vous aviez parlé tous les deux de pédagogie. Peut-être qu'il y aura cette pédagogie à travers les médecins pour l'avenir dans les enjeux du présent en santé publique. Merci infiniment à vous deux pour cette discussion qu'il faudra poursuivre.
Merci Frédéric Worms.
À présent, ce soir, autour du surgissement de la santé publique, avec Céline Lefebvre, avec aussi Didier Sicard, avec et grâce aussi à Julien Douminc, Anne-Pascale Desvignes, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Frédéric Worms. À vendredi prochain, 21h, pour un autre À présent.